premier étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4 heures du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour.
Ce que vous écoutez là, c'est le générique de l'émission Radio L'Envolée, une émission réalisée à la base pour Fréquence Paris Pluriel, radio associative à Paris. L'Envolée, c'est d'abord un espace d'expression libre qui donne la parole aux personnes détenues et à leurs familles dans une logique anticarcérale. Pour évoquer la démarche de L'Envolée et aussi parler de la situation des détenus pendant le confinement, on vous propose un entretien avec K et Serge, deux animateurs réguliers de l'émission L'Envolée. On les a contactés par internet.
L'Envolée, ça existe depuis bientôt 20 ans. C'est une émission qui a été fondée et qui continue d'être animée par des anciens prisonniers et prisonnières et des proches de prisonniers et de prisonnières. Et donc, l'objectif, c'est de donner la parole à des gens qui en sont toujours exclus. Voilà, et donc nous, c'est de relayer les bagarres individuelles, collectives que les personnes enfermées mènent à l'intérieur des lieux d'enfermement, que ce soit les prisons, mais aussi les prisons pour étrangers, les centres de rétention administrative ou même les hôpitaux psychiatriques. Et donc l'idée, c'est vraiment de donner la parole aux gens, et c'est une parole politique qui s'exprime de l'intérieur et que très peu de médias diffusent. Et voilà. Et donc nous c'est ça qu'on veut faire. Je sais pas si tu veux compléter.
Ouais.
C'est ça qu'on fait.
Ah, tu voulais ajouter quelque chose ?
Moi, je voulais ajouter que c'était du coup une émission de radio de manière habituelle depuis bientôt 20 ans, tous les vendredis, au moins en région parisienne, sur Radio FPP au 106.3. Et aussi un journal qui, de base, sortait 4 fois par an et qui, là, sort de manière un peu moins régulière, mais qui continue à sortir et dont il y a des abonnés qui sont dehors et beaucoup qui sont dedans, qui sont enfermés. Mais du coup, l'idée, c'est que les abonnements sont gratuits pour les gens dedans et que les gens dehors payent 15 euros par an pour aussi financer les abonnements de ceux qui sont à l'intérieur. Voilà.
Alors, vous l'avez dit, on peut entendre dans cette émission des témoignages de personnes détenues ou d'anciens détenus. Donc, ça veut dire que vous excluez tout ce qui est expert, juriste, sociologue, philosophe, militant politique ou associatif. C'est pas ça qui vous intéresse ? C'est pas l'objet de ce média ?
Non. Non, nous, on pense que toutes ces autres personnes que tu as pu citer avant, ils ont plein d'autres espaces de parole, ce qui n'est pas le cas pour les prisonniers, les prisonnières et les personnes privées de liberté ou leurs proches, parce qu'on n'entend pas non plus du tout leurs proches et on parle très peu et la plupart des gens ne se rendent pas du tout compte de ce que ça fait d'avoir un proche enfermé ou plusieurs proches enfermés et du coup d'être quelque part enfermé dehors avec eux, avec toutes les difficultés ou toute la réalité de l'enfermement qui existe aussi à l'extérieur pour les personnes qui sont liées pour le linge, pour des courriers, par rapport à des histoires affectives, par rapport à des histoires aussi matérielles, avec des gens qui sont enfermés pour un moment qui peut être court comme très long.
Bah, la formule qu'on a fréquemment, c'est par ceux qui la vivent, pas pour ceux qui en vivent. Et c'est ça, en fait, parce que enfin, sur tout ce qui est expert et autres, en fait, c'est super facile de donner la parole à des gens qui vont parler de quelque chose qui ne vivent pas. C'est-à-dire que, aller en détention un petit peu de temps en temps pour faire un terrain sociologique ou d'autres choses, ça n'a rien à voir avec le fait d'être enfermé. Et donc, je pense que c'est des gens qui prennent la parole à la place d'autres personnes. Il y a toute une tradition dans laquelle on s'inscrit aussi, hein, mais auquel on ne fait pas référence, mais de lutte qui, depuis les années 70, c'est les prisonniers. Il y a eu le groupe Information Prison qui a été monté par des intellectuels à un moment, mais après derrière le comité d'action des prisonniers, qui était un syndicat de prisonniers, où l'objectif des prisonniers et prisonnières à cette période-là, et ça l'est encore aujourd'hui, c'est de récupérer la parole qu'on nous vole grâce aux experts et autres.
Et voilà. Et du coup, une chose très importante, c'est que du coup, bien sûr, jamais on fera témoigner quelqu'un qui travaille pour l'administration pénitentiaire, etc. Non plus. En fait, nous, on considère que les prisonniers et les prisonnières ont raison de se révolter quand elles se révoltent, et ont raison de parler de ce qu'elles vivent quand elles le font. Parce que, comme ça a été, par exemple, évoqué, je crois, la semaine dernière par Nabil, un des prisonniers qui nous écrit une fois de temps en temps, qui l'a témoigné, qu'en fait, c'est vraiment un risque de témoigner de ce qu'on vit à l'intérieur et que c'est vraiment précieux et super important que les personnes enfermées puissent le faire et qu'on puisse les entendre. Et aussi pour que l'information, elle passe aussi de prison en prison, pas que de l'intérieur à l'extérieur, aussi que les prisonniers sachent ce qui se passe ailleurs.
Justement, là, j'allais en parler, c'est de la difficulté de faire sortir les témoignages, parce que on sait que c'est très difficile de faire sortir des témoignages de prison. Bon, il y a des pressions aussi de l'administration. Il y a aussi peut-être une pression sociale, hein, des fois une forme de honte sur la famille, l'entourage ou les personnes détenues. Et puis simplement matériellement, faire entrer, je sais pas, un micro de radio dans une prison, c'est extrêmement compliqué. Comment vous faites, vous? Comment ça se passe un peu? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le processus?
Nous, on dit aux personnes de nous contacter par tous les moyens en leur possession. C'est-à-dire que... on ne diffuse pas toujours comment on a eu ces témoignages, ces lettres, ces infos, etc. Mais dans tous les cas, on peut nous écrire, on a une adresse postale, on est sur tous les réseaux sociaux, sur Internet, on a un numéro de téléphone et du coup, on reçoit des informations qui sont parfois, par exemple, juste un appel d'une cabine. Il y a des cabines en prison, on peut appeler en prison. Enfin, donc, ce n'est pas forcément de manière illégale. Et dans tous les cas, nous, l'idée, ce n'est pas du tout de mettre en difficulté les personnes qui nous ont passé un message. C'est de respecter la manière dont elles veulent que le message passe. Donc, des fois, on va lire un message à la place de quelqu'un. Des fois, on va l'écouter. Des fois, enfin, voilà.
Alors, on va parler avec vous de l'actualité de l'envolée, puisque ces dernières semaines, ces derniers mois, pendant le confinement, l'émission de radio hebdomadaire est devenue quotidienne parce que il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire sur les conditions de vie des détenus, des personnes détenues pendant le confinement. Alors, on commence par quoi? On commence par la question des parloirs, l'interdiction des parloirs qui a été décrétée au début du confinement. Vas-y, Ka.
En fait, parce que nous, on a pris la décision de faire... nous aussi, on était confinés, mais nous, on est dehors. Et nous, on a pris la décision, du coup, de faire, plutôt qu'une émission hebdomadaire, de faire des flash infos quotidiens, donc tous les jours de la semaine, donc du lundi au jeudi, en sachant que le vendredi, on avait une émission d'une heure et demie qui est habituelle et qui dure depuis 2001, quelque part, pour passer des messages aussi en prenant en compte que les parloirs étaient complètement fermés et que ça serait une autre manière, avec nos petits moyens et au moins c'était toujours ça de prix de passer de la parole des prisonniers et passer des infos de prison en prison et aussi de ce qui pouvait se passer dehors aussi en termes de répression, d'ambiance, etc. pour pallier quelque part au parloir à notre manière, même si c'est très ambitieux, on va dire.
Ouais, on pourra jamais remplacer un parloir par une émission de radio, mais voilà. Et de cet arrêt des parloirs, en fait, qui est vraiment un truc complètement inacceptable, vraiment qui est intolérable sur la manière dont ça a été fait. Le parloir, c'est le rare petit moment de liberté, liberté avec plein de guillemets, en détention, qu'il ait été enlevé, c'est complètement hallucinant, parce qu'il n'y a aucun moment où l'administration a cherché à faire en sorte que ça puisse continuer à se tenir. Et donc, ça a été une mesure punitive qui a été infligée aux prisonniers. Voilà. Et ça continue, on en parlera un peu plus tard si j'ai bien compris, mais ça continue maintenant avec des conditions de parloir qui sont complètement punitives et qui relèvent de normalement punitions administratives. Voilà, et qui est actuellement en cours en ce moment depuis le déconfinement. Mais donc face à ça, les prisonniers ils ont bien compris que de toute façon ils seraient les derniers à être soignés, qu'ils seraient les derniers à être testés déjà qu'il n'y avait pas de test à l'extérieur. Et donc ils se sont pas laissés faire. Et donc pour demander des parloirs, pour demander des masques, pour demander des tests, il y a eu énormément de mutineries. Nous, on n'appelle pas ça des mutineries à l'envolée, on appelle ça des prises de parole. C'est des prises de parole qui sont collectives. C'est le cas par exemple à Uzerche où deux bâtiments ont été détruits, près de la moitié des prisonniers ont été transférés disciplinairement en moins de 24 heures, les martons sont partis en courant de la détention, et les prisonniers, donc on a vu plein d'images de violence contre des portes, et donc on a crié au scandale dans les médias et autres, et personne n'a relayé le texte collectif des prisonniers qui disait on veut des masques, des tests et le retour des parloirs et de nos proches. Donc voilà, donc nous on s'est fait le relais de toutes ces prises de parole qu'il y a eu dans entre un tiers et la moitié des établissements, et voilà, donc ça a été les prises de parole collectives. Et après il y a eu aussi plein de prises de parole individuelles et avec toutes les formes de résistance qui peuvent exister à l'intérieur de la détention.
Et quand même, juste pour revenir un tout petit peu sur les parloirs avant de parler de toutes les révoltes et de toutes les prises de parole qu'il y a pu avoir, une des raisons pour lesquelles on a décidé de faire une quotidienne pendant les 55 jours-là de confinement et même la semaine d'après, et on expliquera pourquoi peut-être un peu plus tard, c'est que concrètement, le fait de fermer les parloirs n'était pas une évidence du tout. Enfin, en fait, les personnes qui se sont partagées un enfant pendant ce confinement ont fait plein de kilomètres pour se voir, ont pris des précautions et ne sont pas tombés malades. Ça aurait tout à fait été possible de le faire pour les prisonniers et les proches, de se voir au parloir pendant cette période, mais ça n'a pas eu lieu. Et c'est aussi un message très fort envoyé aux prisonniers et à leurs familles sur comment on les considère dans cette société, en fait. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, eh ben, bon an, mal an, en fait, là, ce qu'on va faire au moins, c'est de donner la parole à tout le monde tous les jours, parce que c'est trop grave de couper ce lien familial, et que c'est ça qui fait tenir aussi plein de gens à l'intérieur.
Avec toutes les feuilletons, prison break, je sais pas trop quelle merde, etc.
C'est le fantasme.
Les gens, ils sont friands, toi, de ça. Eh ben, puisque les gens, ils sont friands de ce truc-là, ça les fait frissonner, eh ben, que leurs frissons, ils leur servent à aller voir ce que c'est que la réalité. Comme tu dis, qu'ils aillent faire un tour dans une cour de promenade. Toi, l'envolée, c'est comme un espèce de parloir qu'il y aurait entre des gens qui écoutent de l'extérieur et des gens de l'intérieur. Toi, cette rencontre-là, c'est une heure et demie de parloir comme ça. Tapez-vous ce parloir-là.
Demandez des permis, allez voir des gens
aussi,
renseignez-vous sur la prison,
voilà, ouais. et puis il y a mille façons d'aider par rapport à l'intérieur, même si on n'est pas un militant anticarcéral, etc. Il y a effectivement d'écrire, il y a de donner de l'argent quand il n'y a pas, de les donner au Secours Populaire ou à la Croix-Rouge ou à je ne sais pas trop quel truc, mais à savoir avec quel prisonnier on peut rentrer en contact pour, etc. les aider, discuter, et ça nous l'envoler, on ne sert pas qu'à ça, mais on sert aussi à ça. On n'est pas un bureau catholique d'entraide, hein. Qu'on soit bien clair, on a un discours politique, nous on est vraiment des anticarcéraux, on est contre la justice qui se pratique là dans ce pays capitaliste qui est la France, on est contre tout ça. Mais on n'oublie pas que là il y a aujourd'hui 65 000 personnes qui sont à l'heure qu'il est là, elles sont fermées à double tour dans des cellules et seules avec la misère, quoi.
Suite de notre entretien avec K et Serge de l'émission de radio L'Envolée.
La question de l'accès aux soins, de toute façon, est problématique depuis de nombreuses années dans les prisons françaises. Si j'ai bien compris, on a eu quand même des choses assez hallucinantes où les salariés, enfin les gardiens de prison, eux, avaient un accès aux masques, un certain nombre de protections, et puis pas du tout les détenus. En fait, comme dans le reste de la société, le confinement a accentué les inégalités, mais là, de manière vraiment hyper frappante dans les prisons françaises.
Ouais, même dans les prisons françaises, les prisonniers fabriquaient des masques et n'avaient pas le droit d'en porter. Vas-y, Serge.
Ouais, c'est quand même incroyable, ça, cette histoire-là.
Le gel hydroalcoolique est interdit parce qu'en détention, l'alcool est interdit. Et donc, les prisonniers se seraient bourrés la gueule avec du gel hydroalcoolique.
Si on leur en avait donné, parce que c'est des enfants, bien sûr.
C'est tout le cynisme, clairement, de l'administration pénitentiaire. Et le tout se joue aussi avec le fait qu'il y ait beaucoup de matons qui ne travaillaient pas parce qu'ils devaient garder leurs enfants et autres, qui n'allaient pas à l'école et tout ça. Et donc, s'ils arrêtent les parloirs, en fait, c'est pas du tout parce qu'il n'y a pas de mesures sanitaires possibles. C'est parce qu'en fait, ils avaient moins de surveillants et c'est les syndicats de surveillants qui ont dit non, nous, on ne fait pas les parloirs.
Voilà. Alors que les surveillants, eux, rentraient chez eux tous les soirs, embrassaient leurs enfants et revenaient dans la détention. Donc, en soi, c'était eux les potentielles personnes qui infectaient les prisonniers et qui auraient pu faire que certaines prisons soient devenues des clusters, concrètement.
Et sur les conditions de soins de manière générale, enfin, je ne sais même pas si on peut parler de conditions de soins. Enfin, je veux dire, tu as une infirmerie avec un médecin qui passe quasiment jamais et on te file du Doliprane dès que tu as n'importe quoi. Mais on a eu énormément de personnes qui nous ont contactés pendant le confinement, de personnes qui sont malades à l'intérieur et à qui on n'a pas donné une suspension de peine pour raison médicale. On a énormément parlé d'un prisonnier qui s'appelle Jean-Christophe Merlet, qui est actuellement paralysé, voilà, et qu'on continue à enfermer, et qui ne peut même pas accéder aux douches parce que les douches sont un étage au-dessus ou en dessous, je ne me souviens plus.
Il est en fauteuil roulant et il ne peut pas être resté.
Et donc, déjà, il y a des soins qu'on ne peut pas appeler des soins. À l'intérieur de la prison de manière générale, et les prisonniers savent très bien qu'ils ce seront les derniers à être soignés correctement, et donc ils savaient très bien quand tous les jours ils regardaient BFM et qu'ils voyaient qu'il n'y avait pas de test à l'extérieur et autres, ils savaient très bien que ça serait les derniers à bénéficier de soins à peu près corrects, et là donc ça a été vraiment pas du tout le cas, et en plus à quoi s'ajoute le fait qu'il y a eu énormément de communication de la part de la direction de l'administration pénitentiaire et de la ministre des tribunaux et des prisons pour dire on libère plein de gens. En réalité, ils ont continué à faire des comparutions immédiates, donc qui remplissaient les prisons. Mais c'est, voilà. Et en fait, ils ont fait sortir absolument personne pour des suspensions de peine pour raisons médicales. Toutes les personnes qui étaient asthmatiques, toutes les personnes qui étaient diabétiques auraient dû sortir du jour au lendemain. Voilà. Et ce qui n'a pas été le cas.
On a parlé un petit peu de ce qu'on peut appeler des mutineries ou des mouvements sociaux à l'intérieur des prisons. Est-ce que ça n'a pas été systématique? Il y a eu dans certaines prisons, pas d'autres. Ça avait commencé déjà aussi en Italie où le confinement était arrivé un petit peu avant en France. C'est un mouvement massif et significatif selon vous?
Au moins une prison sur trois dans les deux premières semaines du confinement.
Ce qui est énorme. Hein.
Oui, enfin, c'est énorme. Franchement, c'est énorme.
Ce qui n'a, même dans les années 70, où ça a été un moment très marquant pour l'histoire des prisonniers, ça n'a jamais été aussi intense. Voilà.
Et, Par contre, ça n'a jamais été autant occulté dans la presse. On a parlé des endroits où, soi-disant, ça a pris feu, où c'était scandaleux, où c'était des émeutes, etc. Mais il y a quand même eu plein d'endroits dont la presse n'a juste jamais parlé comme si ça n'existait pas.
Et au jour d'aujourd'hui, l'administration pénitentiaire ne parle que d'Userche comme étant la seule mutinerie, alors qu'il y en a eu dans plus d'un tiers des prisons françaises.
Et ce n'est pas que nous qui le disons. Hein. Enfin, y a l'Observatoire international des prisons qui a relevé plein de témoignages aussi. Enfin, il n'y a pas que nous qui avons relayé cette parole.
Donc, c'est vraiment massif. Et il faut aussi, ce qu'on a dénoncé très fréquemment à l'antenne, c'est qu'il y a eu la direction de l'administration pénitentiaire et puis la ministre, on dit, oui, on va libérer des gens et on va mettre deux mois de remise de peine aux gens qui se tiendront correctement pendant la détention. Et donc, en fait, il y a eu un petit moment de flottement pendant deux semaines. Après ces très intenses mutineries, il y a eu un petit moment de flottement où les gens attendaient leur libération. Donc là, à ce moment-là, ça a réussi et ça a eu c'était une superbe carotte qui a été mise par la ministre et ça a fait que ça s'est calmé un petit peu. Et au bout de deux semaines, voyant les libérations ne pas arriver, les prisonniers ont repris se sont de nouveau exprimés. C'est par exemple le cas d'un communiqué collectif des prisonniers de Borgo où ils ont couplé ça avec un refus de plateau, donc un refus de recevoir de la nourriture pendant plusieurs jours à la prison de Borgo et aussi à la prison d'Ajaccio, où ils demandaient des libérations et en disant les mesures que vous avez prises sont déjà inconstitutionnelles pour le fait de rallonger les détentions provisoires de manière arbitraire et automatique sans même qu'il y ait un avocat qui puisse être présent, et surtout les libérations que vous nous avez annoncées, il n'y en a pas, parce que c'est ça qui s'est passé. Il n'y a eu pas de libération, enfin il y a eu 4000 prisonniers qui ont été libérés, voilà, et tous les autres ce sont des prisonniers qui ne sont pas rentrés parce qu'il y avait moins d'activité judiciaire. Et ce qui est encore plus dégueulasse, c'est que des gens qui étaient dans un processus de remise de peine, d'aménagement de peine et autres, tous ces processus-là se sont arrêtés du jour au lendemain avec le confinement. Donc des gens qui étaient dans un parcours pour sortir plus rapidement, avec des conditions qui ne restent pas tolérables, le bracelet et tout ça, mais tout ça s'est arrêté du jour au lendemain. L'administration a arrêté de poser des bracelets, l'administration a arrêté de tenir les commissions d'application des peines, voilà. Et donc, de fait, les gens sont restés à l'intérieur, juste il y a moins de personnes qui sont rentrées. Et ça, ça a été une énorme carotte de la part de la ministre et puis de l'administration pénitentiaire.
Et donc, ce qu'on peut juste préciser, c'est que donc oui, il y a des gens qui sont sortis, très peu, environ 4000, et c'est des gens qui auraient dû sortir deux mois plus tard. Voilà, donc c'est les seules personnes qui sont sorties, c'est celles-là, en fait. C'est qu'on peut considérer quand même que le gouvernement savait que le confinement allait durer un mois à deux mois, et c'est les personnes qui avaient encore un mois à deux mois à faire ou qui n'avaient pas de remise de peine à qui on en a mis qui sont sorties. C'est tout. Donc c'est quand même un gros coup de communication, quoi. On s'est bien foutu de notre gueule.
Comment goûter quelque repos dans ces prisons où la misère nous accable, nous désespère et sert d'aliment à nos maux. C'est en vain que notre courage s'exerce contre le malheur. Rien ne peut guérir la douleur de se trouver dans l'esclavage, de se trouver dans l'esclavage.
Alors là, aujourd'hui, au moment où on enregistre l'émission, on est vendredi 22 mai. Donc, il faut toujours être prudent sur le bilan aussi, de le nombre de contaminations. Mais est-ce que vous avez des infos ? Est-ce que l'épidémie a touché fortement ou pas les prisons françaises et les personnes détenues ?
Nous, on se réjouit que pour l'instant, il n'y a aucune prison en France qui est devenue un cluster. comme ça a pu être le cas dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, où on a des chiffres assez hallucinants. Mais donc, nous, on s'en est réjouis. Il y a un prisonnier qui est décédé à Fresnes. Le nombre de contaminations, on n'en sait rien. Parce que de toute façon, ils testent personne. Et donc, il y a des gens qui sont soupçonnés et tout. Et donc, en fait, c'est difficile de savoir si de la maladie est réellement rentrée dedans. En tout cas, ça n'a pas été une hécatombe. Pour autant, il y a aussi d'autres prisonniers qui sont morts. On parlait tout à l'heure des soins. Il y a un prisonnier qui est mort seul dans sa cellule à Douai, où il a été au début annoncé comme étant porteur du Covid. Et après des tests, soi-disant, il n'a... Et c'était plus le Covid, mais une simple. Enfin, il est quand même. Enfin, cette personne est décédée dans sa cellule de manière horrible. Voilà, mais c'était une autre forme d'infection. Voilà, je suis pas médecin. Mais voilà, mais donc pour l'instant, on ne sait pas, parce que de toute façon, c'est de la même manière qu'à l'extérieur. On ne sait pas, il n'y a pas de test et tout. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on avait pu craindre au début, et on a eu très peur. Parce qu'il n'y a pas de mesures qui sont prises et autres. Il n'y a pas eu l'hécatombe qu'on craignait et on s'en réjouit plus tôt. Parce qu'on a eu, il faut le dire, très peur. Il faut dire aussi que ces dernières, enfin, depuis 10 ans, l'âge moyen de la population emprisonnée a vraiment augmenté et donc est bien plus facteur de risque. Voilà.
Mais quand même, il y a un truc qui existe, qui est qu'on ne sait rien et que peut-être on va apprendre des choses plus tard ou par des gens qui sortent. En fait, le vrai problème, c'est que ça se passe dans un lieu fermé où les infos qu'on a sont les infos officielles qui ne sont pas... Enfin, il n'y a pas de chiffres, ça, c'est une chose. Mais moi, je pense aussi à toutes les personnes qui ont souffert du double enfermement, d'être enfermé 23 heures sur 24 en cellule en n'ayant plus aucune activité, plus de parloir, plus rien, et qui vont très mal ou qui ont fait en vrai des tentatives de suicide, des feux de cellule, etc., des actions de détresse individuelle ou aussi qui peuvent être des revendications, mais elles n'arrivent pas forcément jusqu'à nous, et qui ont souffert de cette situation en même temps. Je pense aussi aux proches qui ont complètement... toutes les personnes qui ont une personne à l'intérieur et qui se sont retrouvées dans cette situation confinée chez eux ont ultra souffert de cette situation et de la peur que ces proches incarcérés soient malades ou tombent malades parce qu'il n'y avait aucun moyen de protection. Et notamment, il y a eu une lettre de 150 proches et prisonniers qui a été faite. Il y a quelques temps, je dirais il y a 2-3 semaines, qui est une lettre ouverte qui a été envoyée à Madame Belloubet, ministre soi-disant de la justice, dont on l'appelle ministre des tribunaux et des prisons, parce que c'est ce qu'elle est concrètement. Et voilà, enfin, il y a plein de gens qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient parce qu'ils s'inquiétaient beaucoup. Apparemment, on a évité le drame, tant mieux. Et là, on est un peu dans la phase d'après. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Enfin, c'est... Voilà.
Alors justement, oui, là, c'est un peu un déconfinement progressif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les parloirs ont rouvert. Quelle est la situation un petit peu pour les détenus et leurs familles?
On peut pas parler de parloirs. C'est pas des parloirs. C'est déjà les temps de parloirs sont complètement réduits. T'es en parloir qui se rapproche des parloirs hygiaphones. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est des sanctions disciplinaires normalement. Voilà. Donc, les conditions actuelles, on peut pas dire que ça soit que les parloirs soient revenus. C'est pas le cas. Avec des personnes qui sont sanctionnées parce que au lieu de simplement se laver les mains, quand il y a eu une caresse sur la main ou autre, direct, c'est isolement pour les prisonniers qui sont mis en quarantaine. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont ne voir personne pendant 14 jours, ce qui est un truc de... Enfin, c'est vraiment de la torture blanche, quoi, où ils ne voient que des matons avec des masques. Et de l'autre côté, un parloir qui est suspendu pendant un mois. Et ça se passe aussi avec des matons qui tournent tout le temps et qui sont derrière les gens tout le temps pour soi-disant vérifier que les gens ne se touchent pas, mais dans la pratique, ça fait qu'en fait tu n'as plus aucune espèce d'intimité. Donc cet espace de liberté, un peu de dehors qui rentre quelques heures, là il est complètement, enfin il n'existe plus. C'est pour ça nous on n'a pas trouvé encore le bon terme, mais on peut pas employer le terme de parloir pour parler de ce qui se passe en ce moment et du pseudo déconfinement. Et faut pas oublier aussi que aucune activité n'a repris. Enfin voilà, il y a rien et la situation elle a clairement pas beaucoup bougé quoi.
Et donc les prisonniers et les prisonnières sont encore confinés. Et ce qui se passe c'est que la seule chose qui a repris est des soi-disant parloirs qui sont beaucoup plus difficiles à avoir. Il y en a moins. Les situations sont un peu différentes selon toutes les prisons, mais une généralité c'est que en général il y a un plexiglas. En général, le masque est obligatoire, au moins pour les visiteurs. Mais en fait, ce qui fait que c'est des parloirs où il faut crier sans intimité, avec des temps super courts et avec cette fameuse histoire de, soi-disant, ne pas faire plus de 100 km actuellement, alors que plein de gens ont un proche incarcéré bien plus loin que 100 km de chez soi. Donc, par rapport à ça, d'ailleurs, moi, j'invite les gens, s'ils le souhaitent, à aller voir sur notre site l'envolée.net. On a un petit argumentaire juridique qui existe pour justement pouvoir faire ces 100 km et être sûr de ne pas être verbalisé ou dans tous les cas de se mettre en contact si jamais on l'a été. Parce que ce n'est pas normal, parce que c'est un motif familial impérieux ou de l'assistance à personne, je ne sais plus comment on dit ça, isolée ou je ne sais plus. Enfin, il y a ce terme-là dans les fameuses fiches de plus de 100 km là. Pour pouvoir aller voir ses proches dans tous les cas. Mais il y a une autre, il y a plein de gens qui se battent pour pouvoir y aller. Et moi, je comprends très bien que là, 2 mois sans voir les proches, ça a été déjà trop. Mais il y a aussi plein de prisonniers qui boycottent actuellement les parloirs en disant, dans ces conditions, dans ces mesures punitives-là, on refuse de faire venir nos familles. Et moi, je comprends ça aussi.
Vous qui partagez à la fois et mon infortune et mes chaînes, suspendez un moment vos peines, joignez vos accents à ma voix. Faisons porter à la patrie par le message des zéphyrs nos voeux, nos peines et nos soupirs, nos mots et notre peinerie, nos mots et notre peinerie.
On était en communication via internet avec K et Serge, deux animateurs réguliers de l'émission L'Envolée, émission anticarcérale diffusée à la base pour Fréquence Paris Pluriel et relayée par 17 radios locales en France et en Belgique. Je vous donne le numéro de téléphone de L'Envolée, c'est le 07 52 40 22 48, 07 52 40 22 48. Il y a aussi une adresse mail qui est contact@l'envolée.net.
La patrie mérite bien de la patrie.
En attendant de peut-être retrouver cette émission régulièrement sur Radio PFM, on vous propose cette semaine la diffusion de leur dernière émission en date. Ça sera aux horaires de l'émission Attention les oreilles, donc mercredi à 22h, jeudi à 16h30 et dimanche à 9h du matin.
Mais le destin, toujours volage, en te couronnant de laurier, a fait tomber de tes guerriers dans l'infortune et l'esclavage, dans l'infortune et l'esclavage.